Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Plaidoyer pour une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme, DDH. L'environnement socio-politique en RDC ne garantit pas la protection des défenseurs des droits de l'homme. L'expérience vécue dans le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana fait que les défenseurs des sans-voix militent désormais pour se doter d'une loi devant les protéger. Encore faut-il que cette loi en gestation soit appliquée une fois votée au Parlement et promulguée par le président de la République. Qui est défenseur des droits de l'homme ou des DH et pourquoi? Quelle est l'opportunité de doter le pays d'une loi de sa protection? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs se penche sur cette problématique. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. Dans un atelier de réflexion pour une synergie des ONGDH autour d'une proposition de loi en gestation à l'Assemblée nationale, l'organisation Agir Ensemble pour les droits de l'homme a convié les DDH à faire l'état des lieux du processus de leur combat en faveur de cette loi. Le contexte avec Reprodev.
J'ai parlé d'une loi, si c'est la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et de la nécessité de cette loi en RDC et les leçons apprises de 2017. Alors, parlant de l'opportunité, ce que nous devons retenir de cela, c'est que la loi, la proposition de loi est venue d'un contexte ou des observations qui ont été ça et là décriées, que ce soit par les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit par les partenaires accompagnants ou les des défenseurs des droits de l'homme. Il y a la fragilité qui a été observée sur le terrain. À travers cette fragilité, il y a eu des recrudescences des menaces, il y a eu des arrestations multiples à la compte des défenseurs des droits de l'homme dans tous les pays. Il y a le contexte politique qui n'était pas favorable, qui n'est toujours pas favorable au fait dans le travail des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi cette manque de reconnaissance, de légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme. Voilà pourquoi il est important que la RDC puisse se doter de cette loi pour enfin valoriser cela.
Reprodev épingle quelques efforts du gouvernement.
D'autre part, nous allons quand même évoquer les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le cadre de dialogue et d'échange qu'il a pu mettre en œuvre, bien évidemment, à travers plusieurs actions de plaidoyer menées par les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Nous allons citer très rapidement en passant la Commission nationale des droits de l'homme qui a subi plusieurs actions de plaidoyer de la société civile et ces actions ont poussé au gouvernement, en fait, de mettre en place cette institution d'appui à la démocratie. Il y a la cellule de protection des défenseurs au sein du ministère des droits humains, il y a les entités de liaison qui étaient déjà fonctionnelles depuis l'époque du ministre Luzolo, et nous avons eu, bien sûr, dans le cadre de ces entités de liaison, à échanger avec les autorités sur les questions des droits de l'homme du Congo. Et ça, c'était l'élément phare et l'action primordiale des ONG des droits de l'homme qui ont poussé le gouvernement à mettre cela en place. Début du processus de plaidoyer et les leçons apprises. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela dès son commencement? Nous savons tous que cela date de depuis la période de l'assassinat de Chebeya et Fidel Bazana, que les ONG des droits de l'homme, depuis la télé de Kampala sont revenus en RDC et ont fait pression au ministre pour qu'enfin que le ministre puisse présenter ses projets de loi au sein du gouvernement. Et cela a suivi tout le processus jusqu'à ces jours, jusqu'à ce que tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir mobiliser les défenseurs des droits de l'homme, les politiques, les députés nationaux, afin de pouvoir voter cette loi, malheureusement, qui n'arrive pas toujours à marcher. Il y a les efforts de plaidoyer, je l'ai dit tout à tantôt, qui ont été déployés, mais on notera quand même quelques faiblesses majeures. Et c'est ce qui va nous pousser vraiment à réfléchir sur les stratégies nécessaires à mettre en place afin de pouvoir avoir ou faire voter cette proposition de loi. Il y a le manque de coordination dans diverses actions au sein même de la société civile.
Quelles leçons tirées de ce processus ?
Quelles sont les leçons apprises depuis 2010 jusqu'en 2017 quand le processus a échoué? Nous allons noter ici la nécessité d'un cadre de coordination pour fédérer toutes les initiatives de plaidoyer pour l'adoption de la proposition de loi. Ce groupe de travail pourra continuer pour éviter à ce que les gens, que chacun aille en son coin ou en ordre dispersé, et ça pourra nous fragiliser davantage. Il y a la nécessité de mobiliser les moyens suffisants pour l'accompagnement du processus. Ici, on ne va pas tout simplement parler de moyens financiers, mais on va évoquer les moyens matériels, les moyens humains pour faire avancer la cause. Il y a la nécessité d'impliquer les parties prenantes sans distinction dans toutes les étapes du processus. Nous devons savoir que c'est une loi, c'est une proposition de loi qui a comme bénéficiaire les défenseurs des droits de l'homme, et ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui doivent s'impliquer. Et sans les défenseurs des droits de l'homme, le président de la CNDH l'a dit, il sera difficile de pouvoir acheminer ou aller dans le sens de faire adopter la loi. Bref, nous devons tous nous mettre, que ce soit les partenaires techniques et financiers, les défenseurs des droits de l'homme, le gouvernement, les autorités, les députés nationaux, tous nous mettre d'accord pour faire avancer.
Ce que la loi pourrait apporter au DDH.
Il y a la diminution des menaces à l'encontre des DDH. Nous sommes tous d'accord que une fois cette loi est votée et promulguée par les chefs de l'État, cela sera en fait une base ou une barrière sur certaines menaces. Je ne dis pas qu'il y aura une disparition des menaces, non, mais elles existeraient toujours, mais à un pourcentage trop faible.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h.
Le directeur exécutif de la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, Rostem Ankenta, définit ici qui est défenseur des droits de l'homme, la différence avec les droits humains.
La question que l'on peut bien se poser ici est de savoir qui est défenseur des droits humains. À cette question, je pense que la déclaration du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité se réfère aux individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales universellement reconnues. Pris ainsi au sens large, le défenseur des droits de l'homme ou des droits humains est toute personne, homme ou femme, je peux ajouter garçon ou fille, ou tout groupe de personnes qui œuvrent pour la promotion et la défense des droits et libertés fondamentales universellement reconnu. La déclaration des Nations Unies de 1998 donne donc une définition large du défenseur des droits humains, en faisant rentrer dans cette catégorie non seulement ceux qui défendent les droits humains en tant que professionnels spécialisés, mais également d'autres corps de métier. C'est le cas des avocats qui défendent les victimes des violations des droits humains, sans exiger, et là j'insiste, sans exiger en retour des honoraires. C'est aussi le cas des journalistes qui informent la population sur ses droits, comme vous-même, Monsieur Jeff, ou qui dénoncent les violations des droits humains. C'est également le cas de syndicalistes qui protègent et défendent les droits des travailleurs. C'est également le cas des lanceurs d'alerte sur la corruption. Et la liste n'est pas exhaustive. Les défenseurs des droits humains sont définis et acceptés en fonction des droits qu'ils défendent ou de leur droit à agir de la sorte. Nous pouvons donc dire que toutes et tous doivent comprendre qu'un DDH est défini ainsi par le geste qu'il pose. Donc, nous définissons les défenseurs des droits humains par le geste qu'il pose, par l'action qu'il mène pour la promotion et la défense des droits humains. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et donc, ce qui caractérise le mieux un défenseur des droits humains, ce n'est ni son titre, ni le nom de l'organisation pour laquelle il travaille. Il faut même souligner qu'au-delà de toutes les catégories citées, et dont la liste n'est pas exhaustive, il existe de nombreux défenseurs des droits humains et autres bénévoles qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail remarquable en tant que défenseurs des droits humains et qui ne sont malheureusement pas connus du public, qui ne sont pas visibles. Voyez-vous ? À titre illustratif, le cas d'une maman habitant un quartier privé d'eau potable. Et cette maman qui décide de mobiliser la population de son quartier pour qu'elle ait droit à l'eau potable, que la population ait droit à l'eau potable, ou le cas de ces jeunes hommes qui mobilisent les habitants de son quartier privé de l'électricité. Il y a un droit à l'électricité. Lorsqu'il mobilise la population, les jeunes de son quartier, pour qu'ils aient droit à l'électricité, ou encore, je vais vous étonner peut-être, le cas d'un policier qui demande à ce collègue de ne pas tirer sur les manifestants pacifiques. Écoutez, tout ce monde-là, toutes ces personnes que nous venons de citer sont des défenseurs des droits humains, au même titre que ceux qui travaillent, je dirais, dans des institutions nationales ou internationales. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne ces concepts défenseurs des droits humains. Vous me demandez quelle différence avec les droits humains. Je vais vous dire, le concept de droits humains a plusieurs définitions. Peut-être que je vais vous en donner quelques-unes seulement ici. Lorsqu'on parle de droits humains, et d'autres vous parlent de droits de la personne humaine, des droits de l'homme, je vais vous dire que tout cela signifie la même chose. C'est la même chose et tout cela place l'être humain au centre de tout. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, droits humains ou droits de la personne humaine, on voit l'ensemble des droits garantis et reconnu à tout être humain, nous disons bien à tout être humain, pour son épanouissement intégral et sa dignité. C'est très important. C'est également un ensemble des droits et prérogatives reconnues de manière universelle à toute personne humaine. Il faut insister, sans ces prérogatives, aucune vie dans la dignité n'est possible. Les droits humains sont des facultés inhérentes à la personne humaine. C'est très important et sans lesquels la personne ne peut ni vivre ni accéder à une dignité. Je n'ai pas ajouté autant de définitions, si vous voulez bien, il y en a plusieurs, voyez-vous. C'est également, on peut dire, les droits humains sont des garanties. Ce sont des droits qui sont garantis par des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Et leur respect doit être garanti par l'État pour l'épanouissement intégral de tous les citoyens, de tout être humain. Et cela est très, très, très important. Et donc, le concept droits humains, droit de la personne humaine, droit de l'homme, comme je l'ai dit, renvoie à la même signification. Et tous ces concepts, ça dépend de chaque école, ça dépend de ce que l'on veut. Vous avez un pays comme le Canada, on préfère là-bas parler des droits de la personne humaine. Mais ça renvoie aux droits de l'homme, ça renvoie aux droits humains. Peut-être que nous, si nous parlons aux droits humains, c'est plus envahissant, on sent que c'est plus globalisant, parce que lorsqu'on parle droits de l'homme, parfois on pense que on est en train d'exclure les femmes, les filles. C'est pourquoi parfois on préfère parler des droits humains. Mais droits de l'homme avec H majuscule, ça renvoie aussi à la même chose. Ça renvoie à toutes ces prérogatives dont nous venions de parler ici.
Quelle est l'opportunité de vous doter d'une loi de protection et où en êtes-vous avec ce projet?
À ce sujet, je dois vous dire que c'est vraiment une lutte que nous sommes en train de mener en faveur de l'adoption de cette loi au Parlement. Et cela en faveur de sa promulgation par le président de la République. Cette loi est très très importante pour tous ceux et toutes celles qui défendent les droits humains. Je crois que ça serait une erreur de ne pas disposer une telle loi, de ne pas disposer d'une telle loi ici en République démocratique du Congo, parce qu'il y a déjà des pays qui en ont. Vous prenez la Côte d'Ivoire, je crois encore le Mali. Au Burkina Faso, si je ne me trompe pas, il y a déjà certains pays qui ont des avancées significatives dans ce sens, qui disposent déjà de leurs lois portant protection des défenseurs des droits humains. Et ici, en République démocratique du Congo, c'est une lutte qui continue et nous espérons que nous parviendrons à, quand je dis nous, je vois la République démocratique du Congo, pourra disposer d'une loi portant protection des défenseurs des droits humains. Qu'on évite de confondre les choses, de dire que, écoutez, les défenseurs des droits humains sont des citoyens comme tout le monde, pourquoi ils doivent disposer d'une loi propre, spécifique. À tous ceux qui pensent cela, nous disons clairement que la nature de la mission de défenseurs des droits humains, la spécificité de cette mission, nécessite qu'il y ait un cadre légal protégeant les droits de ceux et celles qui défendent les droits des autres. Pour avoir cette loi, il y a des institutions qui nous accompagnent. Voyez-vous, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme que nous devons féliciter en passant. Nous avons les bureaux conjoints des Nations Unies. Si tous les deux, CNDH, bureau conjoint des Nations Unies, vraiment ont énormément à contribuer aux avancées que nous avons aujourd'hui. Nous devons citer également le ministère des droits humains qui a toujours été à nos côtés. Et toutes ces autorités que nous citons ici, toutes ont fait des déclarations, je dirais, officielles, en disant clairement que tout le monde est pour ce cadre légal portant protection et défense des droits humains. J'ai oublié de citer même certains honorables députés qui sont avec nous. Et déjà, la proposition de loi a été endossée par l'honorable Segui Obé, ce qui est déjà une grande avancée pour nous. Il y a la commission permanente des droits humains au Parlement qui est avec nous. Donc voilà, ce sont là, je crois, des opportunités à ne pas négliger qui peuvent facilement nous donner de l'espoir que nous finirons par avoir, et cela assez rapidement, une loi portant protection et défense des droits humains. D'ailleurs, pour nous, le souhait, c'est que cette loi soit, cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de cette session, hein, vous voyez, pour que les choses puissent aller très très vite. Voilà.
Plaidoyer pour une loi de protection des DDH. On y est cette fois-ci avec ce soutien du gouvernement à travers le ministère des droits humains.
Lors de notre dernier séjour à Genève pour la 71e session du Comité des droits économiques et sociaux, parmi les préoccupations qui ont été posées au ministre, il a été notamment posé la question de savoir qu'en était-il de cette loi, de l'évolution de la loi, du vote et de sa promulgation, car non seulement pour le pays, mais pour les observateurs internationaux, il est impérieux que cette loi puisse être enfin votée. Effectivement, comme vous le savez, le processus a commencé depuis longtemps et il y a eu beaucoup de difficultés relatives à certains aspects de ce texte, certains concepts, et il était important que et l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont appelés à le voter puissent se mettre ensemble en vue de trouver des termes qui pourraient faire que la loi soit rapidement votée et promulguée. Ainsi, nous pensons que, au niveau du ministère des Droits humains, que les travaux de ce jour pourront permettre que les différentes dispositions qui sont contenues dans cette proposition de loi puissent être non seulement comprises, assimilées et interprétées de manière harmonieuse, et que dans tous les cas, dès que ce texte pourrait être effectivement mis sur la table, comme je l'ai appris tantôt, qu'il est question que dès l'ouverture de la session ordinaire, dès mars, le texte puisse être présenté et débattu. Nous sommes, nous, au ministère des Droits humains, non seulement attentifs, mais le ministre tient absolument à ce que, au cours de cette session, cette loi qui est importante, et nous l'avons senti car les différentes structures internationales, les différentes organisations internationales de droits de l'homme ont à cœur que les défenseurs de droits de l'homme, qui sont une catégorie de la société très importante à travers le travail qu'ils font pour que non seulement les droits de l'homme puissent être promus, qu'ils puissent être protégés, mais qu'ils se donnent, on va dire, corps et âme afin que les catégories de la société qui sont marginalisées, que les droits de certaines populations qui sont minorisées, mais aussi que certaines professions comme les journalistes, comme les activistes des droits de l'homme, etc., toute personne qui œuvre dans la protection des droits de l'homme puisse bénéficier des atouts que cette loi va apporter.
À l'atelier de réflexion des DDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a parlé de la nécessité de cette loi compte tenu de l'environnement pas sûr de protéger les DDH.
Je prends la parole au nom du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Empêché. Je voudrais avant tout exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit des responsables de l'organisation Agir Ensemble pour les droits humains pour avoir bien voulu associer le Bureau conjoint à cette importante activité qui vise entre autres objectifs à créer une synergie entre la société civile nationale et les acteurs institutionnels en vue de l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. L'organisation d'un atelier autour de cette question est d'une importance majeure en ce qui justifie la présence de cette multitude d'acteurs que vous êtes ici présents pour l'élaboration d'un plan de plaidoyer conjoint en vue de son adoption. Qu'il me soit donc permis ici de saluer les mesures prises et efforts multiformes déjà entrepris par les autorités nationales visant à garantir aux défenseurs des droits de l'homme la possibilité d'intervenir pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Je saisis également cette occasion pour saluer le courage des femmes et des hommes qui, dans l'histoire de la RDC, se sont engagés volontairement à revendiquer les droits bafoués et réprimés, et je tiens à saluer les ONG de défense des droits humains pour leurs actions constantes et continues pour la promotion des droits de l'homme malgré le contexte difficile. Votre engagement et votre exemplarité méritent le respect.
Que vise le travail des défenseurs des droits humains? Le BSNUDH explique.
À titre de rappel, l'essentiel de l'activité des défenseurs des droits humains consiste à aider les personnes dont les droits ont été violés. contrôlés. En enquêtant sur les violations et en les signalant, ils peuvent contribuer à y mettre un terme, à empêcher qu'elles ne se reproduisent et à assister les victimes devant les tribunaux. Entre autres missions, les défenseurs des droits de l'homme recueillent et diffusent des informations sur les violations, agissent pour défendre le principe de responsabilité et mettre fin à l'impunité. Ils s'engagent en faveur d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure politique. Ils contribuent à l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme, ils éduquent et forment dans le domaine des droits de l'homme. Certains défenseurs des droits de l'homme offrent même une assistance juridique aux victimes et les représentent en justice, d'autres les conseillent et les aident à se réadapter. Cependant, force est de constater que même si les défenseurs des droits humains mènent des actions pacifiques afin de se conformer à la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, leur situation demeure critique, tant les risques et menaces persistent à leur endroit à l'encontre et à l'encontre des catégories assimilées telles que les journalistes et les lanceurs d'alerte. Les défenseurs des droits de l'homme demeurent en effet confrontés à plusieurs défis, notamment les attaques contre l'espace civique, l'autoritarisme, la corruption systémique, la législation et des politiques restrictives, des interrogatoires non justifiés, des interdictions de voyage, des opérations de surveillance, des arrestations et harcèlements judiciaires, des placements en détention, des mauvais traitements, des meurtres, des disparitions, etc. Et l'émergence de nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux et les téléphones portables au sens large, font des défenseurs des droits de l'homme une cible privilégiée et facilement identifiable. Et parce que les garde-fous institutionnels que sont les recours judiciaires, les dispositifs de protection, les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme et la diplomatie silencieuse se sont avérés au fil des années de moins en moins effectifs, il est impérieux pour parer à la vague de répression à l'encontre des défenseurs dans un pays tel que la RDC de se doter d'une loi nationale sur le sujet afin de reconnaître tout d'abord le statut du défenseur, sa légitimité et lui assurer ensuite une protection idoine. Le droit international à travers l'adoption le 9 décembre 1948 de la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de société à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, nous sommes reconnus appelés déclaration des défenseurs des droits de l'homme. Le droit international disait, je reconnais clairement le rôle vital des défenseurs des droits de l'homme pour éliminer les violations des droits de l'homme. La déclaration sur les défenseurs se réfère aux individus, groupes et associations qui contribuent à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes. Cette définition, comme vous l'aurez compris, a fait l'objet de beaucoup de débats par rapport à cette proposition de loi. Donc selon la déclaration, il peut s'agir de toute personne ou de tout groupe de personnes qui s'occupent de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme, l'éventail allant des organisations intergouvernementales basées dans les plus grandes villes du monde aux individus actifs dans leur communauté d'origine. Cette déclaration marque un tournant en ce qu'il s'agit du premier instrument juridique des Nations Unies, bien que non contraignant, qui reconnaît l'importance et la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme ainsi que les droits et les responsabilités de chacun dans la protection de ses droits. Elle fixe pour la première fois les standards internationaux pour la protection des défenseurs des droits humains. Cet instrument juridique appelle les États également à soutenir leurs activités et concrétiser les droits existants de façon à faciliter leur application dans des situations données et elle spécifie également que les États ont le devoir de protéger les défenseurs des droits de l'homme, des acteurs étatiques autant que des acteurs privés qui peuvent être une source de menaces. Nous devons malheureusement faire le constat qu'il n'existe toujours pas en RDC un environnement sûr et habilitant pour les défenseurs des droits de l'homme permettant de les protéger. Ce, malgré les efforts conjoints du gouvernement, de la CNDH, des ONG, des représentations diplomatiques et de la société civile en vue de faire une réalité l'existence d'une proposition de loi portant protection des DDH. Depuis 2016, en effet, après l'installation de la Commission nationale des droits de l'homme, le BCNDH et cette institution n'ont cessé sans succès de multiplier les plaidoyers pour l'adoption d'une loi conforme aux standards internationaux, à travers des plaidoyers, des briefings, des sensibilisations auprès des députés et sénateurs de la Commission PAJ en vue de l'adoption de cette proposition de loi. Le travail de promotion et de défense des droits humains ne peut en aucun cas constituer une menace à la sécurité de l'État. Il vise au contraire à renforcer la cohésion sociale, la démocratie et l'état de droit. Dans cette perspective, la proposition de loi dont nous débattrons aujourd'hui apparaît comme une opportunité pour assurer davantage de leur protection, mais aussi comme une boussole d'orientation des activités du défenseur des droits de l'homme pour l'amélioration des droits humains en RDC. C'est pourquoi il est du devoir du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre de son mandat de promotion de protection des droits humains et de coopération technique en RDC, d'accompagner tous les acteurs, non seulement à appuyer le processus d'adoption en cours, mais aussi de développer des stratégies nécessaires pour sa mise en œuvre effective après sa promulgation. On le sait tous que l'essentiel n'est pas d'avoir une loi, encore faudrait-il l'avoir appliquée. Et ce sera une autre paire de manches au cas où cette loi est adoptée, qu'elle soit effectivement appliquée dans le respect des droits des défenseurs des droits de l'homme. Fermement engagé à mettre en œuvre son mandat de coopération et d'appui technique, le Bureau conjoint tient à réitérer à tous les acteurs engagés dans la cause des droits de l'homme sa disponibilité à accompagner toutes les actions qui seront entreprises pour l'enrichissement et l'adoption de cette proposition de loi.
Plaidoyer pour une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous venons d'en parler dans Droit et Citoyenneté. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs est à présent terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.